Rituel aujourd'hui, il sera question de Laurent de la Résurrection. C'est un nom qui peut surprendre certaines personnes, mais c'est un nom de carme. Les carmes portent de très beaux noms comme ça quand ils entrent en religion. Et on peut voir des noms similaires chez les femmes comme Thérèse de l'Enfant Jésus que l'on connaît bien. Et Laurent de la Résurrection, c'est un des carmes les plus intéressants de toute l'histoire du Carmel. C'est surprenant qu'il ne soit pas canonisé. Sa cause de béatification est introduite à Rome, après bien des siècles, car il est mort il y a plus de 300 ans. En 1691, il vivait à Paris comme carme. Son vrai nom, c'est Nicolas Hermann. Il était donc carme à Paris, mais frère. Il n'est jamais devenu prêtre. Et il est l'auteur d'un des plus importants ouvrages de spiritualité que l'on connaisse, l'expérience de la présence de Dieu. Or, c'est donc une émission aujourd'hui où il serait peut-être bon, je vous le recommande, si vous le pouvez, de laisser de côté de petits emplois que vous faites, choses qui vous distraient, car c'est une émission centrée sur la présence de Dieu. Il disait, le frère Laurent de la Résurrection, « Pensez souvent à Dieu, adorez-le sans cesse, vivez et mourez avec lui. » C'est là la belle occupation d'un chrétien. En un mot, c'est notre métier. Si nous ne le savons pas, il faut l'apprendre. Il a donc vécu de 1660 et de 1614 à 1691. Il est donc mort à 77 ans. Et par sa vie et ses quelques écrits, il nous apprend quoi? En fait, un secret extraordinaire, c'est le plus court chemin pour aller à Dieu. Comme il dit, pour devenir spirituel en peu de temps. Et c'est tout simple, s'appliquer sans cesse à aimer Dieu connu par la foi. On connaît Dieu par la foi et on apprend à l'aimer. C'est tout. Vous direz, c'est trop simple. Vous allez voir. C'est le cœur, de toute façon, de toute la spiritualité du Carmel, ça, de Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila jusqu'à Sainte Thérèse de Lisieux. Et la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Nicolas Hermann, donc c'est son nom de naissance, est né, comme je vous ai dit, en 1614, à Héry-Ménil. C'est un petit village de Lorraine. Ça vous dit quelque chose, j'imagine, la Lorraine, aux gens plus âgés, puisque l'Allemagne et la France se sont battus pour occuper la Lorraine et l'Alsace tout près, donc c'est dans la région de Metz. C'est cette pointe de la France qui se dirige un peu vers l'Allemagne. On ne sait rien de l'enfance de Nicolas Hermann. Rien. Il n'en a rien écrit. Sa vie, on dirait, semble commencer à 18 ans. Et c'est très beau, écoutez ça, elle naît, si on peut dire, sa vie de la contemplation de la nature. Il écrit à son propre sujet, ça lui a été demandé, et il écrit à la troisième personne comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Voici le bref texte qui lui est arrivé quand il avait 18 ans. Un jour en hiver, regardant un arbre dépouillé de ses feuilles, et considérant que quelque temps après, ses feuilles paraîtraient de nouveau, puis des fleurs et des fruits, il reçut une haute vue de la providence et de la puissance de Dieu qui ne s'est jamais effacée de son âme. Cette vue le détacha entièrement du monde et lui donna un tel amour pour Dieu qu'il ne pouvait pas dire s'il était augmenté depuis plus de 40 ans qu'il avait reçu cette grâce. Contempler les choses que nous pouvons contempler aujourd'hui, ce ne sont plus que des arbres que l'on peut contempler. On peut contempler les animaux qui vivent dans le fond de la mer, à la télévision, et tout sans couleur. On peut voir des choses tellement extraordinaires comme les galaxies. On peut voir les infiniment petits comme les éléments constitutifs du cerveau, les synapses, et tout ça, on nous apprend qu'il y a 100 milliards de neurones dans notre tête et davantage. On apprend et on apprend tellement de choses qui nous émerveillent et qui nous font nous rendre compte de la providence, comme il dit, et la puissance de Dieu. Comment cela peut-il s'effacer de notre âme? Oui, ça ne s'est pas effacé. Et cette forte expérience de la présence de Dieu, mais ça ne l'a pas conduit au couvent, comme on pourrait le croire. Il y avait la guerre de 30 ans qui entraîne Nicolas Hermann, soldat, à dépenser bien terre à terre. Ça va lui faire plus tard souvent déplorer, comme il dit, ses péchés. Déjà 21 ans, il est grièvement blessé au cours du siège de Rambert-Villiers, dans les Vosges, là. C'est pas tellement loin de chez lui, un peu vers le sud. Alors il se retire chez ses parents à Éryménil. Éryménil, c'est à 4 kilomètres de Lunéville, en Lorraine, ceux qui connaissent Lunéville. Et pendant que son corps, donc, se remet de cette blessure, son âme aussi guérit. Petit à petit, ça le fait réfléchir, ça rappelle Saint-Ignace de Loyola qui avait été blessé à la jambe. Quand on sait les horreurs qui ont marqué la guerre de 30 ans, on peut imaginer que notre jeune Hermann n'a pas franchi indemne cette période de sa vie. Il réfléchit de plus en plus, puis il trouve alors en son oncle Jean un appui spirituel tout à fait exceptionnel. Celui-ci est frère laïque, frère, comme on dit, chez les Carmes, en Lorraine, pas tellement loin de chez lui. Et chose étrange, malgré toute sa réflexion, Nicolas Hermann, qui pourtant à la recherche d'une vie qui lui permette de se donner totalement à Dieu, ne suit pas son oncle. Ça donne quelque temps à la vie érémétique, comme ermite donc, en compagnie d'un gentilhomme dans un bois. Mais déconcerté de se voir passer de la joie à la tristesse, puis de la paix au trouble, puis finalement de la ferveur à une absence de dévotion, il est découragé parce qu'il n'y a personne pour l'aider spirituellement. Alors avec bon sens, il pense qu'il a besoin d'une règle qui pourrait l'aider dans sa quête de Dieu, mais comment s'engager? Pour toute une vie, ça demande une réflexion profonde. Il demeure 2 ans à Paris. Alors là, il s'engage comme laquais, vous savez, chez le marquis de Fieubet. Un serviteur, quoi, chez un marquis. Il avoue, un peu en riant, il écrit ça dans ses textes, « J'étais un gros lourdeau qui cassait tout. » Il exagère sans doute. Il est toujours donc en recherche, comme on dit aujourd'hui, en recherche. Et chaque fois qu'il entre à Notre-Dame de Paris, la grande cathédrale, il demande la lumière. Le couvent des Carmes de la rue de Vaugirard commence à l'attirer. Il réfléchit. Ô bonté si ancienne et si nouvelle, je vous ai aimé trop tard, dit-il. Croyez compter pour perdu tout le temps qui n'est pas employé à aimer Dieu. Donc, après bien des hésitations, Nicolas Hermann voit clair. Il décide de donner le tout pour le tout. En juin 1640, à 26 ans, il entre chez les Carmes Deschaux de la rue de Vaugirard. 2 mois plus tard, il revêt l'habit des frères laïcs. Il s'en explique en des termes bien absolus. Il dit, « À mon entrée en religion, j'ai pris la résolution de me donner tout à Dieu en satisfaction de mes péchés et de renoncer pour son amour, à tout ce qui n'était point lui. Il est habité par l'amour que Dieu lui porte. Depuis cet arbre qu'il a vu, à 18 ans. Ce renoncement est en principe, on pourrait dire, universel. C'est l'amour qui l'inspire aussi. Il écrit « Ce qui me fit résoudre a donné le tout pour le tout. Voilà. Et ainsi, après m'être donné tout à Dieu, en satisfaction de mes péchés, je renonçais pour son amour à tout ce qui n'était point lui, et je commençais à vivre comme s'il n'y avait que lui et moi au monde. Alors une nouvelle vie commence pour lui. Il prend le nom de Laurent de la Résurrection. Nom qu'il a choisi ou qu'il a reçu, peu importe, c'est bien son nom. De la Résurrection. Il sera bien un priant. Et le mystère de la Résurrection, c'est celui que vit tout baptisé. Hein. Il le dit, c'est mon métier. Hein. Vous vous souvenez tout à l'heure. C'est mon métier que Laurent, par toute sa vie et par quelques écrits, qu'on a heureusement conservés, va nous apprendre. Il écrit, il est vivant, le Seigneur, en présence de qui je me tiens. Il répète souvent ça. Et son emploi, c'est d'être surtout cuisinier de la communauté. Il prépare les repas pour une centaine de religieux, il accueille les pauvres et qui sonnent pour leur repas à l'heure du midi. Il les aime. Il prend le temps de leur prodiguer des conseils. Il faut ajouter à cela que les ouvriers dans ce couvent en pleine expansion, les travaux ne cessent pas, mais il faut qu'ils les nourrissent aussi. Et qu'ils causent avec ces gens qui sont très différents des moines. Hein. C'est dans sa cuisine, au milieu des occupations, qu'il cherche Dieu. Il va être donc tour à tour cuisinier, pendant assez longtemps, ensuite cordonnier. Il va être frère quêteur. Mais il transforme toutes ses occupations en une manière, dit-il, de petits entretiens avec Dieu, sans études, comme ils viennent, les entretiens. Il cause avec Dieu, partout où il est. Il dit, il n'y faut point de finesse, il n'y a qu'à y aller bonnement et simplement. Alors la seule méthode de vie spirituelle de frère Laurent, c'est en quelque sorte l'exercice de la présence de Dieu, comme je vous ai dit au début. Toute cette émission porte sur la présence de Dieu, qui consiste, dit-il, à se plaire et à s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement et s'entretenant amoureusement avec lui en tout temps, à tout moment, sans règle ni mesure. C'est un peu comme de dire à Dieu, « Mon Dieu, je m'en vais faire une promenade. Je trouve qu'il fait assez beau aujourd'hui. Tu viens avec moi, on va aller se promener. » Ça peut paraître enfantin, mais ça n'est pas enfantin. C'est plein d'amour. « Mon Dieu, accompagne-moi, je m'en vais chez Provigo. Aide-moi à trouver des bonnes choses. » J'aimerais trouver des bonnes choses pour mon mari, pour mes enfants. Parler simplement. Et lui dire, maintenant, Seigneur, il est temps que je te donne une belle petite demi-heure avec toi, tout seul, tous les deux. On va se parler, je veux te dire simplement que je t'aime. Et je sais que tu m'aimes. Et c'est dans des gestes comme ça et des paroles comme ça que la vie grandit dans l'âme. Hein? Il dit d'ailleurs, ainsi l'âme est conduite insensiblement à ce simple regard, à cette vie amoureuse, à cette vue amoureuse de Dieu, présent partout, qui est la plus sainte et la plus efficace manière de raison. Dans la voix de Dieu, dit-il, les pensées sont comptées pour peu. L'amour fait tout. L'amour fait tout. Alors le temps d'adoration devant le Saint-Sacrement pour le frère Laurent de la Résurrection, il doit le prendre la nuit. Chez les Carmes, on médite, j'espère que vous savez tous ça, 2 heures par jour, 2 heures d'oraison. C'est ce que faisait Thérèse de l'Enfant Jésus à 15 ans. Oui, 2 heures qui se prolongent souvent même. Quand on va dans les Carmels d'hommes, j'ai déjà passé une semaine avec des Carmes à Avon, et au bout du parc du château de Fontainebleau, comme je vous ai déjà dit, et puis j'étais toujours impressionné de les voir, au cœur, tombés à genoux, rester là immobiles si longtemps. On sait comment ils font, mon Dieu. Et de temps en temps, donc, le frère Laurent de la Résurrection se retire, lui derrière sa cuisine, et là, il jette son regard sur une image de Jésus à la colonne, vous savez, Jésus qui se fait flageller. Se rappelle Thérèse d'Avila, qui était toujours touchée par un Christ souffrant comme ça. Plus souvent encore, il se retire dans son ermitage intérieur. Là, comme dans un élan plein d'amour. Il sait que Dieu l'habite. La Trinité Sainte est là. Il prend le temps de se jeter dans les bras de Dieu qui est son bien-aimé. Sur le cœur plein de miséricorde du Père, il prend le temps de se livrer à l'amour et de se laisser brûler par la flamme de l'Esprit-Saint. 10 années passent de grâce, mais aussi de tourments d'amour. Il a environ 35-36 ans. Et il écrit « L'appréhension que j'avais de n'être pas à Dieu comme je l'eusse souhaité, mes péchés passés toujours présents à mes yeux, puis les grandes grâces que Dieu me faisait étaient la matière et la source de tous mes maux. » Il passe à travers cette nuit où les péchés que l'on a commis et qui ont pourtant été pardonnés par un prêtre, sur lesquels souvent on a pleuré bien des fois, reviennent à la mémoire, hein, et nous harcèlent comme autant d'erreurs stupides. Alors, il parle des grandes grâces que Dieu lui faisait, qui étaient la matière et la source de tous ses maux, ses péchés passés, toujours présents à ses yeux. Mêlé aux grandes grâces, ça faisait un contraste. Et il ne sait plus quelle partie prendre, finalement. Il en arrive un petit excès qui est dangereux, c'est le démon qui le tente, ça arrive aux âmes, il croit qu'il est damné. Alors il pose ce qu'il faut faire, exactement ce qu'il faut faire, un acte d'abandon à Dieu, inconditionnel. Il choisit quoi? Il choisit ce qu'il y a de plus beau, et c'est ce que nous devons tous choisir, le pur amour. Et c'est là toute sa doctrine, aimer Dieu. Il dit, c'est tellement beau, je ne suis venu en religion que pour l'amour de Dieu. Je n'ai tâché à agir que pour lui. Que je sois damné ou sauvé, je veux toujours continuer à agir purement pour l'amour de Dieu. Bon, c'est décidé. Peu importe qu'il soit damné ou sauvé, il veut toujours continuer à agir purement pour l'amour de Dieu. Le retournement est complet, hein? À partir de ce moment, frère Laurent de la Résurrection vit dans une profonde paix intérieure. Comme si mon âme était en son centre et en un lieu de repos. Tout est changé pour lui. Et cependant, sa vie ne change pas, il est toujours cuisinier. Je retourne, dit-il, c'est très beau, c'est un classique, ça, dans la littérature spirituelle, cette phrase du frère Laurent de la Résurrection, on la retrouve dans beaucoup de livres. Ce cuisinier, et pensez, vous aussi, qui faites la cuisine, là, tout à l'heure, je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. C'est simple, vous direz. C'est naïf. Non, c'est beau. Ça ressemble tellement à Thérèse d'Enfant Jésus. Je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Alors là, il devient souffrant, malheureusement, d'une goutte sciatique. Là. Vous savez, ça attaque la jambe. La goutte, c'est une maladie horrible. Ça le rend boiteux. Ce sont des séquelles de la blessure qu'il a reçue à la guerre à 21 ans. C'est ce qui va mettre fin à son emploi de cuisinier 5 ans plus tard, parce qu'il ne peut plus se tenir debout, vraiment. Dans sa cuisine, Laurent s'est accoutumé à tout faire, dit-il, pour l'amour de Dieu, en lui demandant en toute occasion sa grâce. Alors le regard posé amoureusement sur Dieu en chaque instant, voilà toutes ses dévotions, hein, il reconnaît que dans les débuts, ça n'a pas été facile. Il lui arrivait de ne plus être dans cette présence. Mais à force de retour, d'actes d'amour souvent répétés, l'habitude s'est formée en lui. Et s'il lui arrive d'oublier, alors il dit « On me rappelle aussitôt par des mouvements intérieurs si charmants et si délicieux que je suis confus d'en parler. » C'est l'Esprit Saint qui le travaille, hein, qui lui rappelle la présence de Dieu. Et le frère Laurent de la Résurrection est comblé. Sa jubilation est parfois si grande qu'il doit la cacher par des plaisanteries pour donner le change. Alors, il dit que c'est comme s'il mangeait à la table de son roi. Alors là, il parle de Dieu d'une façon tellement étonnante qu'il nous rappelle le Cantique des Cantiques. Il dit « Il m'embrasse amoureusement, me fait manger à sa table, me sert de ses propres mains, me donne les clés de ses trésors et me traite en tout comme son favori. Il s'entretient et se plaît sans cesse avec moi en mille et mille manières. » On voit bien que c'est dans le style de l'époque, hein? Il est mort il y a un peu plus de 300 ans. Cependant, le frère Laurent de la Résurrection, ce carme, ne s'attache pas à ses consolations, il sait que Dieu est plus grand que ses dons. Il dit, ce n'est pas vos dons que je cherche et que je désire, mais vous-même. Qu'est-ce que ça donne de rechercher des dons de Dieu? Si c'est pas Dieu, vraiment, qu'on aime, qui nous aime et on reconnaît l'amour que Dieu nous porte. Il connaît Dieu par la foi, mais à force de le fréquenter dans l'amour, il va pouvoir dire, je ne crois plus, mais je vois. J'expérimente ce que la foi nous enseigne. Alors, il est établi dans la présence. Établi dans la grande présence. Son temps de raison ne diffère plus du reste du temps pour lui. Il s'y tient comme une pierre devant un sculpteur, se laisse sculpter. Il dit, je le prie de former en mon âme sa parfaite image et de me rendre entièrement semblable à lui. Alors, son calme et sa bonne humeur sont légendaires. On connaît sa joie simple, qui ne répugne pas à toutes sortes de boutades. C'est un homme qui a de l'humour. Sa réputation dépasse la clôture du couvent. Il y a des saintes ou des savants qui apprécient ses conseils. Les pauvres sont ses préférés. Il leur livre ses secrets. C'est le grand Fénelon, cet homme admirable, ce grand spirituel Fénelon qui a écrit « Frère Laurent est grossier par nature et délicat par grâce. Ce mélange est aimable et montre Dieu en lui. » Longtemps incompris puis éprouvé par de grandes souffrances intérieures, Laurent de la Résurrection est amené à se donner entièrement à Dieu et en pur abandon pour le temporel et le spirituel et à prendre son contentement où? Dans l'exécution de sa volonté, la volonté de Dieu, dans toutes les choses. Ça lui rend la paix, ça. Et rien de bien marquant extérieurement dans la vie de ce frère laïque. Après 15 ans passés à la cuisine, il devient cordonnier, ou si vous voulez, savetier du couvent, là. Deux fois, il sera chargé de s'occuper de la provision du vin de la communauté, car on est à Paris, on boit du vin. Et puis, une fois, il va se rendre en Auvergne, au cœur de la France. Une fois en Bourgogne, aussi par bateau, un peu vers le sud, là. Et on dit, il parle de lui-même, il était estropié d'une jambe et ne pouvait marcher sur le bateau qu'en se roulant sur les tonneaux. Puis, c'est une gymnastique. Jusqu'à la fin, malgré ses souffrances occasionnées par son infirmité, qui a dégénéré en un ulcère à la jambe, il reste joyeux, il plaisante. Il dit, il était fort malade et fort gai. C'est ce que dit le grand Fénelon, ça. Il était fort malade et fort gai. Toujours gai. C'est ce que dit Fénelon, qui est allé le visiter peu de temps avant sa mort. Parce que son médecin, il fait un reproche qui est historique aussi. Il dit à son médecin, « Ah, monsieur, vos remèdes réussissent trop bien pour moi. Vous ne faites que retarder mon bonheur. » Sans agonie, avec la paix puis la tranquillité de quelqu'un qui dort, le frère Laurent de la Résurrection est mort le 12 février 1691. C'est l'anniversaire. C'est l'abbé de Beaufort, grand vicaire du cardinal de Noailles, qui par son éloge du frère Laurent de la Résurrection, puis la publication de ses mœurs, c'est un ouvrage, ça, puis de ses maximes, puis de ses entretiens, ben c'est cet abbé de Beaufort qui a transmis à la postérité la doctrine spirituelle de ce saint frère convert, Laurent de la Résurrection. Cette doctrine qui est marquée au sceau de la simplicité puis de la vérité. Vous savez, cette doctrine n'a pas vieilli en 3 siècles. Le livre existe, on peut se le procurer. L'expérience de la présence de Dieu par le frère Laurent de la Résurrection. Son entrée au monastère, il s'appelait Nicolas Hermann, son entrée au monastère lui permet de s'apprêter à mourir. À mourir à quoi? À ce vieil homme, pour devenir un homme nouveau, comme on dit dans le Nouveau Testament. Et sa nouvelle naissance, cet homme nouveau, est marquée par le choix de ce nouveau nom, Laurent de la Résurrection, et c'est pour lui un signe merveilleux. Il va chercher à vivre avec le ressuscité, le vivant, à une grande profondeur dans sa relation. C'est ce que les mots « vivre comme s'il n'y avait que Dieu et moi au monde » veulent dire. Hein, je vous avais dit ça tout à l'heure. Il s'y applique avec force. Et c'est extraordinaire, cet absolu de sa recherche de la présence de Dieu. Ça s'incruste dans le quotidien, dans les actes quotidiens, les petits actes de rien du tout. Il dit « j'adorais Dieu le plus souvent que je pouvais », même en tournant son omelette, puisqu'il était cuisinier, « tenant mon esprit en sa sainte présence » et le rappelant tant de fois. Il fait preuve d'une persévérance absolument saisissante. Il aime appeler ça sa fidélité. Bien qu'il expérimente la lenteur du vieil homme qui est en lui, on ne se débarrasse pas du vieil homme comme ça du jour au lendemain. Il dit, « Je n'eus pas peu de peine à cet exercice que je continuais malgré toutes les difficultés. » Il n'a pas fait ça en 2 secondes, hein? Durant les 10 premières années, son cœur reste chancelant. Il dit, « Je tombais souvent et je me relevais aussitôt. » Il fait penser à Thérèse Martin, sa future petite sœur du Carmel, Thérèse l'Enfant Jésus, qui va chercher en vain, c'est pas à couler son don de soi dans une forme solide, là, jusqu'à ce que, comme il dit, « en un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans. » Jésus le fit, raconte Thérèse de Lisieux, Jésus le fit se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit défaut. C'est dans les manuscrits autobiographiques. Et c'est pas la sensibilité qui joue des tours à notre ancien soldat, le frère Laurent de la Résurrection, mais le souvenir de ses péchés, puis la conscience de son indignité face à Dieu, si présent et si comblant, l'intimité avec Dieu qu'il poursuit et qu'il goûte, en fait. Est-ce que c'est pas de la présomption? Oui, est-ce que c'est pas se tromper de chemin, ça? Faire des illusions? Tomber dans le rêve? Il était troublé dans ses pensées. Il dit d'autres fois, j'étais troublé des pensées que c'était me donner à plaisir, qu'il n'y avait point de salut pour moi. Et à distance de 33 ans, le frère Laurent de la Résurrection résume le moment de rupture le plus définitif qu'il a vécu alors. Il dit, « Lorsque je ne pensais plus qu'à finir mes jours dans ces troubles et ces inquiétudes, et qui n'ont rien diminué de la confiance que j'avais en Dieu et qui n'ont servi qu'à augmenter ma foi, je me trouvais tout d'un coup changé. » C'est que la sainteté, c'est la participation grandissante à la vie divine qui est en nous. Elle est en nous, cette vie divine. On l'a reçue au baptême. Elle est confirmée. Elle grandit dans l'Eucharistie, dans le sacrement du pardon. Elle n'arrête pas. Elle s'exprime dans une attitude de foi, d'espérance et d'amour, hein, de Dieu et du prochain. Et cette vie de Dieu va s'épanouir en nous. L'amour évangélique, à ce moment-là, devient plus intense. Vient persévérant et étendu à tous les terrains, le concret de la vie partout où on est appelé. Il y a une transformation profonde, mais silencieuse, qui s'opère alors. Et chez le frère Laurent de la Résurrection, on est frappé par le caractère assez net de son passage aussi définitif qu'abrupt à cette phase ultime de paix et d'union à Dieu. C'est l'irruption soudaine d'une grâce de stabilisation qui stabilise tout, la grâce de la paix qui vient de Dieu, hein, qui cristallise, qui parachève, on pourrait dire, tous ses anciens efforts généreux pour se confier à Dieu seul. Ça se fait au-delà de tout souci intérieur et de tout intérêt personnel. Et dans une conversation, aussi tu as quelques 16 ans après les faits, avec l'abbé Joseph de Beaufort, son confident, son futur biographe, le frère Laurent a mieux exprimé comment la recherche de l'amour de Dieu, voire du pur amour, semble avoir été aussi bien la raison profonde de cette nuit de l'esprit par laquelle il est passé que son heureux dénouement. Et l'abbé de Beaufort raconte, il avait eu une très grande peine d'esprit, croyant certainement qu'il était damné. Tous les hommes ne l'aurait pu lui ôter cette opinion, mais il avait sur cela raisonné en cette manière. ouvrez les guillemets, « je ne suis venu en religion que pour l'amour de Dieu, je n'ai tâché à agir que pour lui, que je sois damné ou sauvé, je veux toujours continuer à agir purement pour l'amour de Dieu, je vous l'ai lu tout à l'heure. C'est très important. Il ajoute, « j'aurai du moins cela de bon que jusqu'à la mort, je ferai ce qui sera en moi pour l'aimer. » C'est l'amour pur. Peu m'importe que je sois sauvé ou damné, je ne veux qu'aimer, aimer Dieu. Ailleurs, le frère Laurent confie encore qu'en ce moment de rupture, il avait pris la résolution de se contenter d'agir pour Dieu. Arrive ce qui pourra. Et qu'il pouvait bien se perdre, ainsi pour l'amour de Dieu dont il s'était bien trouvé, comme il écrit. Il ne nous cache pas non plus l'effet de grâce de ce quasi-perpétuel acte d'abandon total qu'il fait. Il écrit, « Et mon âme, qui jusqu'alors était toujours en trouble, se sentit dans une profonde paix intérieure, comme si elle était entrée en son centre et en un lieu de repos. Hein? » Vous vous souvenez? Et désormais, c'est la stabilité en profondeur, dans une confiance inébranlable. Tous les entretiens avec l'abbé de Beaufort et tous les écrits du frère Laurent de la Résurrection qui nous sont restés, ses lettres, ses maximes spirituelles, ça date d'après cette transformation intérieure, d'après ce soudain changement. Il dit, « je me trouvais tout d'un coup changé. » On ne discerne désormais plus de, on pourrait dire, de virements notoires dans sa voie de sainteté. Qu'il parcourt, on dirait avec une hâte simple et joyeuse. Hein? Voici brièvement d'ailleurs les éléments principaux de sa façon de procéder. Présence et amour sont certainement les deux clés de lecture majeure qui nous dévoile les secrets de la voie de sainteté du frère Laurent de la Résurrection. Elle domine toute sa vie spirituelle. « Vous saurez, » c'est ce qu'il écrit en parlant toujours à la troisième personne, « vous saurez que son principal soin, depuis plus de 40 ans qu'il est en religion, a été d'être toujours avec Dieu, et de ne rien faire, de ne rien dire, de ne rien penser, qui lui puisse déplaire. Sans aucune vue, que celle du pur amour, et parce qu'il en mérite infiniment davantage. » Est-ce qu'on peut être plus clair? Me semble que non. Il est conscient de ce que Dieu mérite. Alors le frère Laurent répond par un souci constant du pur amour et par la recherche assidue de sa présence. Il écarte au maximum tout ce qui l'en éloigne. Et cette volonté d'aimer Dieu, de comme il dit, de tout faire pour l'amour de Dieu, d'aimer Dieu en toute chose, dit-il aussi, d'y aller tout droit par un exercice continuel d'amour en faisant tout pour l'amour de Dieu, comme il dit encore, mais tout ça va se traduire par une entrée totale dans ce que Laurent de la Résurrection reconnaît comme le désir concret de son Seigneur. Il dit, « je n'ai pas d'autre volonté que celle de Dieu que je tâche d'accomplir en toute chose et à laquelle je suis si soumis que je ne voudrais pas lever une paille de terre contre son ordre, ni par un autre motif que son pur amour. Je ne veux que lui, et je veux être tout à lui. » Ce désir de conformité à la volonté de Dieu s'étend à tout l'avenir, hein, dans une soumission inconditionnelle. Il écrit, « j'espère que lorsque j'aurai fait ce que j'aurai pu, il fera de moi ce qui lui plaira, qu'il fasse de moi ce qui lui plaira. » Et en effet, il écrit, « notre unique affaire en cette vie est de plaire à Dieu, que peut-être tout le reste que folie et vanité. » Avez-vous remarqué dans les trois dernières citations le mot « plaire » avec la charge affective qu'il contient? C'est de l'amour. Cette volonté de plaire suppose positivement, et c'est très typique ce, du charisme du frère Laurent de la Résurrection, un penchant, ça suppose positivement un penchant intense à regarder le Seigneur, Dieu, à lire sa volonté dans ses yeux, à chercher donc sa présence et vivre dans sa proximité. Le passage à la pratique de la présence, je vous ai dit que toutes les missions portent là-dessus sur la pratique de la présence de Dieu. Alors le passage à la pratique de la présence, par pur amour, s'impose comme naturellement. D'emblée, avec une grande pureté de vie, il faut une grande fidélité, dit-il, à la pratique de cette présence et au regard intérieur de Dieu en soi, qui se doit toujours faire doucement, humblement et amoureusement. Cet amour ne s'arrête pas pour se reposer, évidemment. Il dit qu'il faut toujours travailler, puisqu'en la vie de l'esprit, ne pas avancer est reculer. Alors pour cela, dit-il, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes choses à faire. Mais en revanche, ajoute-t-il, il ne faut point se lasser de faire de petites choses pour l'amour de Dieu, qui regarde non la grandeur de l'œuvre, mais l'amour. Il dit ça à la suite de Sainte Thérèse d'Avila. On voit ça dans Château intérieur, au chapitre 7. Puis il dit ça aussi comme s'il était deux siècles à l'avance, le précurseur de Thérèse, la toute petite de Lisieux. Il dit les œuvres ordinaires, donc, mais en les faisant pour le pur amour de Dieu. Et la parole la plus célèbre de notre cuisinier mystique est sans doute, je vous l'ai dit tout à l'heure, je retourne ma petite omelette dans la poêle pour l'amour de Dieu. Alors, il faut se détromper, hein. Ce n'est pas le fait d'être ceci ou cela qui est un empêchement à la sainteté chrétienne. On peut être n'importe qui. On peut même être éboueur. Pourquoi pas? Notre sanctification dépend non du changement de ce que nous avons à faire, mais de faire pour Dieu, dit-il, ce que nous faisons ordinairement pour nous-mêmes. Le désir de toujours plaire à Dieu renferme aussi négativement le refus de tout ce qui pourra en quelque façon déplaire au Seigneur. Que de bébelles! Que de bagatelles, comme il disait dans son temps. Moi, je dis en québécois, que de bébelles auxquelles on peut s'attacher et qui, dit-il, déplaisent à Dieu et peut-être l'offense. Que de badinerie, dit-il. Depuis ce temps-là, le temps de son acte d'abandon inconditionnel 33 ans auparavant, là, il dit, depuis ce temps-là, je travaille devant Dieu simplement en foi, avec humilité et avec amour, et je m'applique soigneusement à ne rien faire, à ne rien dire et à ne rien penser qui lui puisse déplaire. Il ne demande, dit-il, pour toute chose à Dieu, sinon qu'il ne l'offense pas. Il parle de lui à la troisième personne cette fois-là. Alors derrière le sourire du frère Laurent de la Résurrection se cache un renoncement radical qui rappelle les pages les plus exigeantes de la montée du Carmel, puis de son père spirituel bien-aimé Jean de la Croix. Il a personnellement renoncé pour l'amour de Dieu à tout ce qui n'est point lui, et il nous avertit que tout consiste à renoncer une bonne fois à tout ce que nous reconnaissons ne tendre point à Dieu. Et le frère Laurent insiste dès lors sur le sérieux de la sainte et ferme résolution, de la généreuse résolution. Il a compris la valeur suréminente de Dieu. Il n'avait eu d'autre soin, dit-il, que de rejeter fidèlement dans le commencement toute autre pensée, pour faire toutes ses actions pour l'amour de Dieu. La sainteté, c'est pas affaire de spécialiste. Il dit, il ne faut ni finesse ni science pour aller à Dieu, mais seulement un cœur résolu, de ne s'appliquer qu'à lui, ou pour lui, et de n'aimer que lui. Remarquez, s'il vous plaît, insiste le bon frère, que pour arriver à cet état de très fidèle attention à la présence de Dieu, on suppose une mortification des sens, puisqu'il est impossible qu'une âme, qui a encore quelque complaisance en la créature, puisse jouir entièrement de cette divine présence. Car pour être avec Dieu, il faut absolument quitter la créature. Et pourtant, on sait que Camille C., qui a été dirigée par le chanoine Caffarel, qui était marié, puis d'autres, il y a quelques siècles, Anna Maria Taïdji, mariée aussi, ont, comme d'autres personnes mariées, été avec Dieu dans la même présence. Alors lui, il va le dire aux laïcs que ça se pratique aussi. Vous allez voir, nous allons y passer tout à l'heure. Laurent de la Résurrection disait, « Bannissons de notre cœur et de notre esprit tout ce qui n'est point lui, Dieu. Il veut être seul. » C'est ce qu'il écrit à 6 jours de sa mort. Et c'est ce qu'il s'était forcé de faire. Il avait toujours tendu vers ça. Il dit, en tout temps, à toute heure, et à tout moment, dans le plus fort même de mon travail, je bannissais et éloignais de mon esprit tout ce qui était capable de m'ôter la pensée de Dieu. Il dit, il faut priver la volonté de toutes sortes de goûts et de plaisirs spirituels et corporels, afin que, étant ainsi dégagée, elle puisse aimer Dieu sur toute chose. Et pourtant, c'est un homme joyeux qui savait savourer les belles choses. C'est qu'il ne s'attachait pas aux belles choses. Voilà la différence. Il les aimait sans s'y attacher. Ça demande une vigilance continuelle. Il dit, veillez sans relâche. Puis ça, il faut faire attention de nos motivations. Hein. Il dit, il faut veiller attentivement sur tous les mouvements de l'âme qui se mêlent aussi bien dans les choses spirituelles que dans les plus grossières. Dieu donne lumière pour cela à ceux qui ont le véritable désir d'être à lui. Et pourtant, on le sait, tout ça peut se réaliser dans des conditions de vie normales des laïcs. Il le dit bien. Il dit à un moment donné, ni attache au don, ni au goût, aux consolations qu'on reçoit de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent, ah ben moi, je vais pas faire de prière aujourd'hui parce que j'ai pas le goût. Ils n'ont goût que des, qu'aux consolations. C'est vide. Il dit, bien, ne vous en éloignez jamais volontairement et vivre le reste de vos jours en sa sainte présence, privé pour son amour, s'il le juge, à propos des consolations du ciel et de la terre. Il dit bien, on n'a qu'à reprendre la terminologie du frère Laurent de la Résurrection, qui est un vrai disciple de Saint Jean de la Croix, de ce grand docteur mystique espagnol, pour comprendre à quel degré de radicalisme il pose son ascèse au service de l'amour, au service de la présence de Dieu. Et la grâce qui y est offerte, renoncer, rejeter, quitter, bannir, éloigner, priver, veiller sans relâche, vider, tous ces mots-là semblent très négatifs. On peut dire, ah ben non, ça, je jette ça à la poubelle. Mais attention, faut pas faire ça si vite que ça. Si le frère Laurent, dans sa vocation monastique et ses humbles tâches, pousse très très loin, lui, le renoncement aux choses, puis le silence de l'esprit, il dit bien à ses amis laïcs, et je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il dit à ses amis laïcs qui sont dans le monde, qui ont des jobs, quoi, il va conseiller la même voie, mais avec bon sens et intelligence. Aussi bien de la valeur unique de Dieu que des circonstances personnelles dans lesquelles chaque personne individuelle va être obligée de jouir de sa liberté, puis d'être fidèle. Où que se trouve leur cuisine concrète à chacun, lui qui était cuisinier. Dieu ne souffre, dit-il, ne souffre pas qu'une âme qui veut être entièrement à lui prenne d'autres consolations qu'avec lui. Cela est plus que raisonnable. Je ne dis pas que pour cela il faille se gêner beaucoup. Non, non. Calmons-nous. Il dit, il faut servir Dieu dans une sainte liberté. Il faut travailler fidèlement, sans trouble ni inquiétude. Et c'est très beau ce qu'il dit, se rappelant doucement et tranquillement notre esprit à Dieu, autant de fois que nous l'en trouvons distrait. Quand l'esprit est distrait, ben hop, on le ramène à Dieu. Pourvu que vraiment on le cherche, dit-il. C'est dans l'amour que ça se fait, puis pas dans la contention, dans l'énervement, pas ça du tout. Il dit, il n'est pas nécessaire d'être toujours à l'église pour être avec Dieu. C'est ce qu'il écrit à une dame dans le monde. Il dit, nous pouvons faire de notre cœur un oratoire dans lequel nous nous retirons de temps en temps pour nous y entretenir avec lui doucement, humblement et amoureusement. Tout le monde, dit-il, est capable de ces entretiens familiers avec Dieu, les uns plus, les autres moins. Il sait ce que nous pouvons, le bon Dieu, alors commençons. Alors je résume par un dernier témoignage, ce désir d'aimer Dieu dont le frère Laurent de la Résurrection est si profondément animé. Voici comment il résume sa pensée. Il faut se donner entièrement et en pur abandon à Dieu, pour ce qui est temporel comme pour ce qui est spirituel. Il faut prendre son contentement dans l'exécution de sa volonté, soit qu'il nous conduise par les souffrances ou par les consolations. Car au creux des souffrances, il nous conduit toujours. Au creux des consolations, il nous conduit toujours. Il ajoute, tout doit être égal à celui qui est vraiment abandonné. Il ajoute, il faut de la fidélité dans les aridités, dans les moments difficiles, par où Dieu éprouve notre amour pour lui. C'est là où nous faisons les bons actes de résignation et d'abandon, dont un seul fait souvent faire beaucoup de chemin. Un seul acte d'abandon, un seul acte d'amour nous fait bondir. Il dit notre être profond, où les racines du péché et celles du bien sont tellement chevêtrées, a besoin de temps pour assimiler et faire fructifier la présence et toute l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu en nous. Et le frère Laurent écrit, non sans humour, au sujet d'une jeune religieuse, elle me paraît pleine de bonne volonté, mais elle voudrait aller plus vite que la grâce. On n'est pas saint tout d'un coup, dit-il. Par ailleurs, il signale dans un jeune homme qu'il connaît, il voit la coexistence d'un bon naturel et d'une bonne volonté, puis encore un peu de monde, le monde, et beaucoup de jeunesse. Et ça lui déplaît pas, mais il voit qu'il a du chemin à faire. Personne, en fait, n'est autant convaincu de sa petitesse et de sa faiblesse que le frère Laurent de la Résurrection, et sa confiance va de pair avec une grande humilité qui ne l'empêche pas de chanter les miséricordes de son Seigneur. Quelle bonté, pense Laurent, sa grande bonté à mon égard que je ne puis assez admirer pour le grand nombre de grâces qu'il a faites à un aussi misérable pécheur que moi. En somme, le frère Laurent est un sage, un contemplatif, un saint, un grand fasciné de Dieu et de sa présence. Bien sûr, le frère Laurent de la Résurrection parle de notre Seigneur en conclusion de ses lettres. Il n'y mentionne une fois le Saint-Esprit, mais toute la Trinité du reste, jamais mentionnée explicitement, est présente dans ce nom fascinant qu'il donne, Dieu. Pour lui, tout est en Dieu. Quand il parle de Dieu, Laurent devient entraînant. Parfois, il jette quelque chose sur le papier, mais la plupart du temps, il est insatisfait, il déchire immédiatement. Et plus que par ses paroles, il rayonne par ses actes et sa façon d'être. Il est surtout à l'aise avec les petites gens simples pour lesquels il n'a pas de secret. De toute façon, il est un ouvrier, comme eux. Mais de leur côté, vous le rappelle, les savants s'étonnent de ses réponses judicieuses. Alors, il est question depuis 1992, lors du tricentenaire de sa mort, de l'ouverture du procès de canonisation du frère Laurent de la Résurrection. Je vous rappelle que le père Conrad de Mester, Carme, a écrit « Frère Laurent de la Résurrection, écrit et entretien sur la pratique de la présence de Dieu » aux éditions du Cerf. Il a aussi écrit « Vie et pensée du frère Laurent de la Résurrection » dans la collection « Foi vivante ». Toujours aux éditions du Cerf, c'est un petit livre pas cher, ça.